L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Moissac, 93.3.
Et à Lourdes, présence, c'est sur le 96 et c'est là où nous rendons puisque c'est des studios de présence Lourdes que va se passer l'heure qui suit. J'ai le plaisir d'être en votre compagnie durant ce présence midi au cours duquel nous allons nous intéresser au salon agricole qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Et Benoît Guillard s'y est rendu. Il a rencontré les acteurs de l'agriculture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Thierry Massias, qui est conseiller en culture maraîchère. Nous parlerons littérature avec le frère Martin ce vendredi. Le titre de l'ouvrage qu'il nous présentera, « Laisse Dieu être Dieu en toi ». Nous aurons évidemment le journal de la mi-journée et puis la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, elle sera en compagnie de Camille Rigaud qui s'occupe du tiers-lieu Le Lien à Ibos. Et puis pour finir ce présence midi, nous serons en compagnie de Catherine Albrecht qui nous présentera un auteur célèbre qui a écrit sur nos belles Pyrénées. Aujourd'hui, c'est un incontournable, vous le connaissez très certainement si vous arpentez les jolis sentiers de nos Pyrénées. Il s'agit de Henri Russel. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous propose de la débuter avec les titres des informations de ce vendredi 27 mars.
Des milliards en jeu dans le ciel mondial. Airbus frappe fort avec une commande géante de Shiner Nesterline pour plus de 100 A320 Neo. Drame en Aveyron. Après plusieurs jours d'angoisse, 2 corps retrouvés au Portugal. Le suspect, quant à lui, est interpellé et les enfants sont sains et saufs. Toujours en Aveyron, les intempéries bouleversent le calendrier agricole. Dérogation exceptionnelle pour la taille des haies dans plusieurs communes touchées. Un mystère vieux de 3 siècles refait surface. Aux Pays-Bas, un squelette pourrait être celui de D'Artagnan, figure emblématique du Gers. À Toulouse, la mémoire s'écrit à plusieurs voix. Les abattoirs lancent un appel à témoignages pour faire revivre leur histoire. Enfin, du sport avec la pétanque à l'honneur. Moissac décroche son billet pour le championnat de France après une finale disputée.
Retour de l'information aux alentours de 12h30. Dans l'immédiat, nous débutons et nous poursuivons cette émission avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Je suis à Tarbes. Je suis toujours au salon agricole de Tarbes. Et je profite de ce salon pour aller rencontrer un certain nombre d'acteurs qui accompagnent des filières dont nous avons traité dans nos dernières émissions. Et là, je suis avec donc Thierry Massias. Il nous dira 2 mots de qui il est, qui est conseiller en culture maraîchage. Et si j'ai souhaité rencontrer Thierry, c'est d'abord on se connaît depuis longtemps. Et Thierry a accompagné depuis longtemps la filière maraîchère bio. Et donc, c'était l'occasion justement de faire un état des lieux, de voir un petit peu les forces et les difficultés de cette filière aujourd'hui, ses particularités et puis les perspectives, le regard qu'il porte sur l'avenir. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Peut-être deux mots de présentation de qui vous êtes.
Voilà, donc je m'appelle Thierry Macias et donc je suis conseiller en maraîchage et culture légumière au sein de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. J'interviens sur le maraîchage avec la particularité des Hautes-Pyrénées, c'est que donc grosso modo il y a à peu près 80 maraîchers dispatchés un peu sur l'ensemble du département, forte proportion en maraîchage bio. Et la grosse particularité, c'est qu'ils sont tous en vente directe au détail. Donc soit sur des marchés, soit à domicile, ou plus sur à travers des paniers. Mais voilà, c'est la grosse particularité de vente directe au détail.
Alors, aujourd'hui, on peut la quantifier, le nombre d'exploitations qui sont sur du maraîchage légumes bio.
Alors maraîchage bio, donc à peu près 80 maraîchers et grosso modo ça va être vraiment une soixantaine d'exploitations en maraîchage bio. Donc maraîchage bio en vente directe, c'est un système, alors ça dépend bien sûr des exploitations, mais grosso modo ça va être des exploitations sur des petites surfaces. Un hectare et demi, 2 hectares, avec une surface sous-abri, suivant les exploitations, entre 20 et 30% sous-abri. Et la grosse particularité, c'est à partir du moment où on est en vente directe et détail, on est présent toute l'année. Et cette présence nécessite donc au moins 25-30 espèces de légumes lissées sur l'année.
En termes d'installation, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveaux arrivants, de l'installation hors cadre familial qui continue, qui se pérennise? Il y avait une forme d'installation importante sur le Piémont au moment de la crise Covid. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors effectivement, il y a toujours des installations. Les installations que nous suivons au niveau de la chambre d'agriculture, donc il y a ce qu'on appelle un stage 21h hein, pour la préinstallation, notamment pour la dotation, la DGA, dotation jeune agriculteur. Et pour donner un chiffre, l'année dernière, en 2025, où j'avais participé donc à ces stages en tant qu'intervenant, et il y avait une dizaine, sur l'année 2025, il y a une dizaine de personnes qui étaient en porteur de projet, en cours d'installation sur le département des Hautes-Pyrénées, répartis sur un peu l'ensemble du département, mais effectivement toujours avec une forte présence en zone Piémont, quoi. Donc c'est vrai que c'est un site attractif, beaucoup de gens, à peu près 80% hors cadre familial, donc qui s'installent très souvent sur des terres dans un cadre d'achat, mais c'est vraiment autour d'un projet de vie, quoi. C'est vraiment la grosse particularité, quoi.
Et la surface moyenne des unités maraîchères dans le bio sur le territoire, c'est quoi?
Alors sur ces exemples que j'ai donnés là pour l'année dernière, en 2025, donc c'est à peu près sur un hectare et demi, donc vraiment des toutes petites surfaces, quoi, en fait. Avec c'est vrai, dans le cas de ces installations, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte. Bon, effectivement, le premier critère, ça reste la commercialisation, savoir où vendre, à quel endroit, à qui. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment important. C'est ce qui va déterminer le système, en fait, de production. Donc là, on s'oriente sur de la vente directe au détail. Le deuxième aspect qui est primordial, c'est l'accès à l'eau. Qui est quand même des opportunités pour avoir accès à l'eau, tant au niveau autorisation que disponibilité en eau, avec des débits suffisants. Et après, le troisième critère va être quand même, le choix des parcelles, qui va être primordial, compte tenu de son exposition sur l'ensoleillement, compte tenu de son exposition qui ne soit pas trop exposée au vent. Enfin voilà, il y a quand même des critères de choix agronomiques qui vont être très importants et qui vont conditionner, la réussite par la suite.
Alors aujourd'hui, on sait que dans le bio, et en particulier le maraîchage bio, il y a peu ou pas d'aide. À part au moment de l'installation, au démarrage ou la transition vers le bio quand on vient du conventionnel. Malgré tout, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive avec 1,5 hectare à tirer un revenu suffisant pour faire vivre sa famille?
Ah, c'est là le problème. C'est la grande difficulté, et souvent on se rend compte que les exploitantes ou les exploitants qui s'installent, il est nécessaire déjà dans un premier temps le temps de mettre le projet en route, tout ça, d'avoir quand même un revenu. Donc souvent c'est le conjoint ou la conjointe qui assure ça. Et c'est vrai que pour tirer un revenu, c'est quand même une difficulté, quoi. En fait, hein, ça reste quand même le principal problème.
En sachant que souvent ils n'ont pas trop la capacité d'investissement et que le foncier c'est difficile à acquérir, en tout cas dans un contexte normal. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a des structures qui essaient de faire en sorte de faire de l'acquisition et de la location de foncier, mais c'est quand même difficile.
L'accès au foncier est difficile, alors notamment sur la partie cette partie maraîchage, quoi, rien en fait. Et même si c'est des petites surfaces, mais ça nécessite quand même au moins ces différents critères que je citais auparavant, une commercialisation, accès à l'eau et surtout une belle orientation aussi.
Alors on sait que pendant la période de crise Covid, la filière a bénéficié d'une position des consommateurs qui sont revenus sur la proximité et la présence des maraîchers. Ils sont revenus aussi sur le bio, plus ou moins. Et donc, qu'en est-il, Thierry, selon vous, aujourd'hui, de cette commercialisation, ces circuits courts? Et qu'est-ce qu'il faudrait raconter à nos consommateurs pour pouvoir étendre leurs achats sur du local et sur du bio?
Alors, c'est vrai que pendant la période Covid, il y avait vraiment une force de vente pour les maraîchers. Et là, bon, je suis plutôt le témoin de ce qu'ils racontent, quoi, hein. C'est que effectivement, période Covid, il y en a beaucoup qui disaient « j'ai jamais vendu autant de légumes ». Ça a été la première chose. Il y a même des gens sur certaines communes qui disaient que... ils découvraient qu'il y avait un maraîcher ou une maraîchère sur leur commune, alors que ça faisait des fois une dizaine d'années. Enfin, il y a des témoignages dans ce sens-là. Et ce que l'on remarque maintenant, toujours à travers les témoignages, c'est que le soufflet est retombé, quoi. Parce que autant il y avait une force de vente à ce moment-là, autant après les gens, les consommateurs ont repris leurs habitudes et donc fréquentent les hyper et les supermarchés, quoi, en fait, hein. Et donc c'est vrai que le local et la vente sur les marchés ou autres, ou même à domicile, a nettement diminué, quoi.
Alors, la restauration collective dans les Hautes-Pyrénées comme ailleurs aspire à acheter des produits locaux de qualité et des produits bio, puisque pour moi la restauration scolaire, ils sont obligés aujourd'hui. Et pour autant, je les ai déjà interviewés, ils me parlent de leurs difficultés justement à s'approvisionner. Qu'est-ce qui manque dans la filière?
Alors sur la filière donc restauration hors domicile, hein, RHD, on se rend compte qu'il y a plusieurs difficultés, à la fois pour les cantines scolaires, hein, donc de trouver de l'approvisionnement. Il y a une difficulté aussi d'équipement, dans le sens où les gens sont pas forcément équipés, enfin les gens au niveau des cantines ne sont pas forcément équipés en moyens humains ou en moyens matériels pour parer les légumes, peler les pommes de terre ou râper les carottes, quoi, hein. Donc il y a une histoire d'équipement. Au niveau de la production, la grande difficulté aussi, c'est la logistique. En fait, hein, c'est vrai que très souvent, ça reste quand même des petites quantités quotidiennes, quoi, hein. Donc il y a un problème de logistique et d'éloignement, hein, par rapport à la livraison. Et puis l'autre problématique reste quand même aussi le prix, qui est quand même nettement inférieur au prix de vente à la production. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs et paramètres qui combinés tout ça ensemble, c'est vrai que c'est pas évident. Et le constat, c'est vrai qu'il, de fait, il y a très peu de produits locaux qui partent en local sur la restauration collective, quoi.
Alors c'est le débat qu'on porte toutes les semaines autour de cette réflexion, parce que il s'agit aussi de convaincre les familles, les parents des enfants qui vont dans nos écoles et qui sont dans les restaurations collectives, d'accepter éventuellement de rajouter quelques centimes au prix du repas pour favoriser les filières courtes et en particulier la filière bio sur le territoire. Mais ça, c'est une autre question. On arrive à la fin de l'émission, Thierry. J'aurais voulu votre regard, vous qui avez une longue expérience quand même sur le territoire de la production maraîchère et de la production maraîchère bio. votre regard et vos souhaits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour que ça aille mieux?
Alors là, c'est une question très ouverte. Là, hein. C'est, déjà au niveau des Hautes-Pyrénées, on voit quand même qu'il y a une activité locale très, très importante, et il y a quand même une attirance de par ben, les conditions pédoclimatiques, quoi, en fait, hein, pour, et au fur et à mesure que j'avance dans le métier sur ce département, je me rends compte que il y a vraiment de très bonnes conditions pédoclimatiques pour faire de la production de légumes. La crainte quand même, c'est que qu'il y ait une saturation au niveau de la commercialisation, au niveau des marchés. C'est vrai qu'on peut se dire, tiens, finalement, il y a certains marchés où on se rend compte qu'il y a un peu saturation. Donc, il faut trouver effectivement de nouveaux débouchés, sortir peut-être un peu du système vente directe au détail pour pouvoir proposer, en plus du détail, mais pour pouvoir proposer peut-être des légumes sur des circuits un petit peu plus longs, parce qu'il y a une demande. Il y a aussi des magasins locaux, des hypermarchés qui sont en demande, quoi, hein, en fait, de produits locaux. Mais je crois que la grosse difficulté, à mon sens, parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le domaine des légumes, j'ai travaillé sur d'autres départements avec des producteurs qui travaillent en circuit beaucoup plus long. Donc là, les Hautes-Pyrénées, effectivement, on est sur des circuits courts. Mais je crois que, à mon avis, il y aurait peut-être un regard à changer au niveau du consommateur, notamment sur la présentation des légumes ou autre, quoi. Hein. C'est vrai que on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de déchets, parce qu'il y a pas mal d'invendus, et pas mal d'invendus dans le sens où des fois un légume qui n'est pas très beau, voilà, il se vend mal, y compris même sur le marché au détail. Donc je pense que déjà il y aurait un changement de regard à avoir au niveau du consommateur, et à mon avis ça commence par les enfants. Je crois qu'il y a une éducation à faire à ce niveau, de démarrer très tôt, en fait, dans ce sens là quoi.
D'où l'importance de proposer et de rendre lisibles et visibles ces légumes dans les écoles, puisque c'est le lieu idéal pour sensibiliser les enfants au bien manger, à la santé du bien manger, et puis aux produits locaux et aux produits goûts. Merci infiniment, Thierry, de nous avoir consacré ce temps à l'occasion du Salon Agriculture pour nous parler de cette filière maraîchage, et en particulier maraîchage bio. Et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir.
Merci bien, au revoir.
Thierry Massias, c'était au micro de Benoît Guillard, une émission que vous pouvez retrouver dans son intégralité, bien sûr, sur le site internet de la radio, radioprésence.com, de même que l'émission que nous allons écouter dans quelques instants, juste après Gilberto Gil, qui nous chante Roda.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir, quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz, onde se diz o que diz.
Gilberto Gil sur Présence avec le ciel qui est bleu au-dessus des studios de Lourdes et bien sûr le soleil qui brille. J'espère que chez vous aussi, j'en profite pour vous souhaiter un très très bon appétit. Et puis pour la petite histoire, sachez que Gilberto Gil qui vient de chanter cette chanson, c'était un ministre de la culture du Brésil.
Présence à Bagnères-de-Luchon 94 FM.
Et pour la chronique littéraire et le coup de cœur en librairie de cette semaine, nous sommes en compagnie du frère Martin qui va nous présenter l'ouvrage de la semaine au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour à vous Anne-Rose et bonjour à vous chers auditeurs.
Merci de nous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui vous allez nous présenter un ouvrage de Jean-Marie Guelette, il est dominicain. Cet ouvrage c'est « Laisse Dieu être Dieu en toi, petit traité de la liberté intérieure ». Tout un programme.
Tout à fait.
Alors racontez-nous un petit peu ce que Jean-Marie Guelette nous propose à travers cet ouvrage. C'est quand même pas rien, « Laisse Dieu être Dieu en toi », voilà une belle promesse.
C'est surtout un ouvrage qui est paru en 2002 aux éditions du Cerf et qui vient d'être édité en livre de poche. C'est un petit livre, très joli. Comme
alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous l'avez dans la main.
Internet.
C'est vrai, très coloré, très joli.
Très coloré, très petit et très agréable pour prendre dans sa poche partout où on va. Et pour pouvoir réfléchir, méditer, et je trouve que c'est intéressant pour nous aider à revisiter notre relation avec le Seigneur. Alors il met trois grands chapitres, entrer en relation avec Dieu, revisiter qui est Dieu, quelle vision j'ai de Dieu. Alors il dit très bien, est-ce que je suis avec lui comme un commerçant, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est mon pote, enfin c'est très vivant la façon dont il explique les choses. À chaque fois vous avez des petits paragraphes, et je crois que c'est moins un livre à lire dans un long sens continu, mais vraiment profiter de ces petits chapitres, même un paragraphe, et ça va vous donner une occasion de réfléchir à vous, comment vous percevez
comme
les choses.
Comme des petites miettes comme
voilà,
ça qui
oui,
sont...
Oui. Et c'est pour ça, ce livre, vous le transportez dans votre sac, et je vous disais, on peut le prendre dans les transports en commun, vous méditez, dans une salle d'attente, même s'il y a du bruit, vous voyez, vous lisez un petit chapitre, hop, vous réfléchissez, et même s'il y a des gens, apprendre aussi si vous marchez, si vous faites du vélo, si vous êtes dans la montagne, dans la nature, enfin, vraiment, je trouve que c'est un livre qu'on peut transporter et nous permettre de vivre certains moments qui nous aident à nous rapprocher du Seigneur et nous aident à réfléchir. Alors, deuxième grand chapitre, larguer les amarres, nous lâcher de fausses idées, nous ajuster.
Ça veut dire
Seigneur.
Quoi, larguer les amarres? Ça veut dire lâcher prise un petit peu? Se détacher des choses qui nous polluent le cœur?
Voilà, qui nous polluent le cœur, ou qui des fois ne seraient pas très ajustées à notre être avec Dieu. Donc nous ajuster dans ce larguer les amarres, mais il dit les choses avec, justement, il y a beaucoup de choses sur la miséricorde, sur notre rapport au pardon, je trouve que c'est très très lumineux. Et puis ensuite, avancer dans ma vie avec le Christ et vivre en communion avec Dieu. Voilà.
Pourquoi le sous-titre de cet ouvrage, c'est un petit traité de la liberté intérieure? Ça veut dire que quand on réfléchit à notre relation à Dieu, à la manière de larguer les amarres, à la manière dont on peut suivre le Christ, ça permet de retrouver une liberté au fond de son cœur? C'est ça le chemin à suivre, c'est ça?
C'est-à-dire, pouvons-nous entendre que c'est d'abord Dieu qui nous appelle? Et quelle réponse, moi, je vais lui donner? Et là, dans cette réponse, c'est là où il y a notre liberté. Nous avons été créés, créatures devant le Seigneur, et nous entendons l'appel, et chacun est libre de lui répondre, et à la mesure où il va lui répondre.
Donc il faut scruter un petit peu ce qu'on a au fond de son cœur et décortiquer un peu sa relation à Dieu. C'est pas
on n'a pas à la décortiquer. Il nous donne des petits indices pour la décortiquer, ça se fait tout seul.
C'est pour quel public cet ouvrage?
Alors là, vraiment pour tout le monde, et je vous ai dit pour toute situation dans la vie. Et après, il est intéressant quand même de dire que Jean-Marie Guelette a travaillé sur le grand spirituel Maître Eckhart, et qu'en fait, il adapte un peu la pensée de Maître Eckhart, qui peut-être n'est pas tout à fait accessible comme ça, pour justement ce petit livre qui, à la lumière de Maître Eckhart, nous permet d'être plus en vérité dans notre relation avec Dieu.
La dernière fois, vous nous présentiez des exercices spirituels. Alors là, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais quand même, ça reste un petit peu dans cet esprit de réfléchir, de méditer, de cheminer. En fait, on reste toujours dans cette perspective de cheminer pour aller jusqu'à Dieu.
De cheminer et surtout de peut-être de purifier notre lien. Et vous savez, c'est comme dans une relation avec un ami. Eh ben, il y a des moments, voilà, ben, on se redit des choses et remettre l'essentiel de notre relation avec le Seigneur. Et là, ça m'a paru important. Il va y avoir les vacances de printemps. Il va y avoir des beaux jours. Et voilà, c'est une invitation à emporter ça dans son sac, même dans sa poche. Si vous avez un grand manteau, un livre de poche, ça rentre dans votre poche.
Ça veut dire que c'est pas très grave aussi de dédramatiser peut-être aussi si parfois on a l'impression que notre relation à Dieu par période, elle est moins simple, moins fluide.
Tout à fait.
Voilà, on dédramatise avec cet ouvrage.
Et puis il va vous donner des clés pour justement remettre les choses à une place plus ajustée.
Et pour laisser Dieu être Dieu en nous. Laisse Dieu être Dieu en toi. Petit traité de la liberté intérieure par le dominicain Jean-Marie Guelette. C'est paru aux éditions Point Sagesse. 126 pages, 8,40 €. Un livre de poche, facile à transporter, on a bien compris. Il y a toujours le petit côté pratique avec vous, frère Martin. Et bien sûr, c'est un ouvrage qui est disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai.
Tout à fait.
On a tout dit pour cet ouvrage, frère Martin.
Oui. Alors, et maintenant, la balle est dans votre camp pour lire et méditer un petit chapitre.
Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique.
Merci à vous, Anne-Rose, et à bientôt.
Et rendez-vous également sur le site de la radio, radioprésence.com, dans la rubrique culture, où vous retrouverez toutes les chroniques du frère Martin. Dans quelques instants, les informations de la région, juste après Eddy Mitchell, qui nous balade sur la route.
Sincère, vraiment désolé pour toi. Tu repars vers tes galères, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66, personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, pas des empty. s'achève sur la route.
Eddy Michel sur Présence.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et très bon appétit. Si vous êtes à table, il est 12h passées de 31 minutes sur Présence, en plein cœur de ce Présence Midi. Dans quelques instants, nous aurons la chronique solidaire de Anne Deloy qui nous amènera à l'ouest de la ville de Tarbes, plus précisément à Ibos, où nous découvrirons la responsable du tiers-lieu, Le Lien. Et puis, nous parlerons de Henri Recel, un écrivain qui a écrit sur nos belles Pyrénées et que tout bon Pyrénées se doit de connaître. Ce sera avec Catherine Albrecht. Voilà le programme pour la demi-heure à suivre. Je vous propose de faire un point complet sur l'actualité avec le journal de la mi-journée.
Bonjour à tous. Contrat XXL pour Airbus. La compagnie China Eastern Airlines a commandé 101 avions de la famille Airbus A320neo, un record estimé à près de 16 milliards de dollars. Les livraisons doivent s'échelonner entre 2028 et 2032. Cette commande confirme la place stratégique de la Chine pour Airbus, qui renforce sa position face à la concurrence. Coup de théâtre tragique dans l'affaire des disparitions en Aveyron. Les corps d'Audrey Chavalier et de la compagne de Cédric Prison ont été retrouvés enterrés dans un lieu isolé au Portugal. Le suspect, ancien policier de 42 ans, a été interpellé après 5 jours de fuite. Les deux enfants portés disparus ont été retrouvés sains et saufs. Une enquête pour enlèvement et séquestration est en cours. Restons dans l'Aveyron. Dérogation exceptionnelle pour les agriculteurs quant aux précédentes intempéries. Suite à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs communes de l'Aveyron, l'interdiction de tailler arbres et haies est reportée. Initialement prévue au 1er avril, elle débutera le 16 avril 2026. La fin reste fixée au 15 août. Sont concernées les communes d'Auguessac, Bouillac, Espalion, La Soute, Milo, Montségeoul, Paul, Rivière-sur-Tarn, Saint-Geniez-d'Olt et Daubrac et Saint-Parthème. Et un mystère historique relancé autour de D'Artagnan. Un squelette découvert dans une église de Maastricht aux Pays-Bas pourrait être celui du célèbre mousquetaire. Né dans le Gers à Loupiac, cette figure du règne de Louis XIV reste emblématique de la Gascogne. Retrouvée sous un ancien hôtel, les restes intriguent les chercheurs. Des indices concordent, notamment la présence d'une balle. Les analyses ADN sont en cours pour confirmer cette hypothèse et les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. Appel à témoignages pour faire vivre la mémoire des abattoirs à Toulouse. L'établissement culturel lance une collecte de souvenirs autour de son passé et de son ancienne activité jusqu'à aujourd'hui. Habitants et anciens témoins sont invités à partager récits, objets ou photos. Rendez-vous le 18 avril pour ces temps d'échange. Les contributions viendront enrichir les archives et préserver l'histoire collective du lieu. Enfin, belle performance pour la pétanque moisagèse. L'équipe de Moissac s'est qualifiée pour le championnat de France après sa victoire en finale face à Lavitte, 13 à 10. Une rencontre disputée au Boulodrome, au terme d'un week-end de qualification très révélé avec 72 équipes engagées. Grâce à ce succès, les joueurs décrochent leur billet pour la compétition nationale prévue en août à Saint-Yrieix.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Et nous retrouvons comme tous les vendredis Anne Deloy pour sa chronique Solidarité.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Solidairement Vôtre, l'émission qui donne, comme vous le savez, la parole à des acteurs de solidarité autour de nous dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, notre invitée est Camille Rigaud. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, certains de nos auditeurs vous connaissent déjà, ils vous ont entendu sur les ondes de Radio Présence, parce que vous êtes la cofondatrice et coordinatrice d'un tiers-lieu situé à Ibos. C'est sur une ancienne friche industrielle, c'est ça?
Oui.
Et alors, aujourd'hui, je ne vous invite pas pour nous parler du tiers-lieu, même si à un moment donné, on dira quelques mots. Mais c'est vraiment pour vous entendre personnellement, donc sous forme même d'un témoignage, d'un parcours de vie, pour nous dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2026, une jeune femme comme vous est actrice de solidarité. Alors Camille, pouvez-vous nous raconter votre parcours? D'où venez-vous? Ce qui vous a amené petit à petit vers un métier lié à la solidarité?
Oui, alors j'ai pas du tout fait des études dans la solidarité, voire même plutôt éloignée, puisque j'ai fait des études dans le marketing. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes, comme Airbus pour ne pas les citer, aux relations institutionnelles et ensuite dans une start-up au marketing. Et à ce moment-là, même si j'aimais ce que je faisais parce que j'aimais les gens avec qui je travaillais, je me posais quand même de grandes questions sur l'impact que mes activités pouvaient avoir, que ce soit social mais aussi environnemental. Et c'est comme ça qu'en 2018, avec Loïc Borde, qui est cofondateur du Lien, on a initié un voyage pendant un an où on est allé à la rencontre d'entrepreneurs dans l'innovation sociale et environnementale.
Alors à ce moment-là, vous aviez pris un temps sabbatique ?
Oui, c'est ça, une année pour voyager, une sorte de pause dans nos carrières respectives. Lui est ingénieur et avec cette idée vraiment de voir comment l'innovation, qui était nos métiers à ce moment-là en 2018, pouvait servir la cause environnementale, qui était vraiment nous notre premier attrait. Et puis finalement, s'en est découlé un voyage où on a rencontré une cinquantaine d'entrepreneurs, investisseurs, ONG, bénévoles, qui œuvraient pour la transition écologique et sociale. Et là, ça a été un vrai chamboulement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être une ou deux rencontres pendant cette année sabbatique qui a fait vraiment, qui vous a conforté tous les deux pour dire, c'est vers un tiers-lieu qu'il faut qu'on se destine.
Avant de réellement penser au projet de tiers-lieu, c'est vrai qu'en fait, on a rencontré plein de projets qui nous semblaient assez isolés. On rencontrait une structure et en fait, à chaque fois qu'on rencontrait une personne, ils nous disaient, ah, mais je connais telle personne que vous devriez trop aller rencontrer parce que c'est super intéressant ce qu'ils font. Et en fait, sans même s'en apercevoir, finalement, le fil du lien entre toutes ces personnes commençait à se tisser. Et dans les rencontres qui m'ont vraiment marquée, on était au Vietnam et on a rencontré Son, qui avait une soixantaine d'années, qui lui avait vraiment un rôle de conseil et il faisait aussi un petit peu d'investissement dans des structures qui allaient aider les Vietnamiens au quotidien. Et en fait, c'est lui qui nous a fait rencontrer, je pense, 5 ou 6 structures, entrepreneurs en premier lieu, mais qui avaient des projets super différents. Et non seulement, on venait juste le voir pour un rendez-vous et on a passé une semaine avec lui, tellement on a accroché et tellement on était contents d'être ensemble, mais aussi, on s'est rendu compte aussi à quel point son rôle était central de faire le lien entre tous ces projets.
En fait, votre année sabbatique, le voyage que vous avez fait pendant ce temps-là, c'était peut-être à la fois en France, en Europe, mais aussi donc jusqu'au Vietnam et oui, peut-être d'autres pays.
Oui, en tout, on a été dans 12 pays, en Asie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud.
Et comment vous avez préparé ce voyage à l'international ?
Déjà, ça a été pas mal de mois de préparation, déjà sur des questions très logistiques, comment on voyage, avec quel visa, quelles assurances et tout ça. Et puis surtout, ensuite préparer qui est-ce qu'on va rencontrer, quelle envergure on a envie de donner aussi à ce projet-là. Donc nous, ça nous tenait à cœur d'enregistrer aussi des témoignages d'entrepreneurs, de savoir pourquoi ils mettaient en œuvre ces solutions, pour qui, et surtout comment ils avaient cherché des solutions innovantes pour répondre à des vraies problématiques locales. Et puis, ça a été le point de départ. Et au final, on a rencontré, c'est ça, une cinquantaine de personnes et on a fait une cinquantaine de portraits.
Et c'était surtout des gens qui étaient engagés dans le milieu associatif ou vraiment entreprises ?
À la base, c'était plutôt des entreprises et on avait envie de donner la parole à des entrepreneurs. Et puis finalement, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des associations aussi et que la barrière que nous, peut-être, on se fait assez fréquemment en France entre entreprises et associations comme étant des structures très différentes, ayant des objectifs très différents, la barrière était peut-être aussi plus fine que ce qu'on pensait et que les intérêts des uns pouvaient servir les intérêts des autres et surtout qu'en fait on pouvait travailler ensemble. Et du coup on est revenu aussi avec cette idée en France qu'on ne voulait pas spécialement faire réunir que des associations ou que des entreprises, mais qu'on avait envie de réunir sur un même lieu des associations, des entreprises, des entrepreneurs, des indépendants, des gens hyper différents, des bénévoles, des usagers, des coworkers,
Alors justement, Camille, Pourquoi avoir choisi de vous investir dans un projet ancré localement, ici, dans les Hautes-Pyrénées? Puisque vous veniez de Toulouse, vous aviez fait ce tour de France, ce tour du monde. Alors, pourquoi les Hautes-Pyrénées?
Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que Loïc Bord, cofondateur, est lourdais. Et donc, voilà, il avait déjà un attachement aux Hautes-Pyrénées qui était très fort. Et aussi, pour le lieu, puisque du coup, Stéphane Ayot, qui est le troisième cofondateur du lien, lui était propriétaire d'une friche industrielle ici à côté de Tarbes et du coup qui nous a donné l'opportunité et qui a dit ben voilà, vous avez un projet, moi j'ai un lieu, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose de ce lieu.
Alors concrètement, Camille, qu'est-ce que représente pour vous la solidarité locale?
Je dirais qu'avant tout, c'est déjà des gens qui se parlent. Ça peut paraître un peu basique, mais je crois qu'en fait, toutes nos villes et nos vies, d'une manière générale, sont quand même très segmentées. C'est-à-dire qu'on va dans un centre commercial pour faire ses courses où finalement on parle à personne. On va dans des zones résidentielles où on parle très peu à ses voisins. On vit le soir dans des zones résidentielles. Et tous ces trajets-là, on les fait en voiture. On rencontre assez peu de monde. Donc, au final, c'est déjà avoir de la solidarité, c'est peut-être juste s'intéresser aux gens qui sont déjà autour de nous et avec qui on n'a pas forcément de lien, mais avec qui on aimerait juste avoir un peu des nouvelles ou savoir qui ils sont.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais, à l'échelle d'un village ou d'un bassin de vie que l'on ne peut pas faire ailleurs? Là, avec votre expérience d'IBOS, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que déjà ici, les gens se connaissent beaucoup parce qu'ils ont grandi ensemble, parce qu'ils ont été à l'école ensemble et que finalement, ces liens-là se font de manière assez
naturelle.
Fluide. Oui, ils ont fait du sport ensemble et tout ça. Et donc moi, en plus, qui arrivais de l'extérieur, je me demandais aussi quelle était ma place dans cet écosystème-là. Et du coup, je trouve que justement, les liens se faisant assez facilement, c'est comment on va aussi intégrer de nouvelles personnes, comment on fait pour que chacun trouve sa place. Et ça, je pense qu'à l'échelle d'une grande ville, en fait, c'est tellement lointain que il y a tellement de monde que finalement on se reconnaît pas forcément et on trouve pas forcément sa place, alors que là justement je trouve qu'on est quand même dans un territoire qui est accueillant, où il y a aussi beaucoup de place pour des initiatives où finalement on monte un projet dans une grande ville, c'est un projet parmi d'autres, ici on est écouté et les gens ont envie de soutenir les initiatives, quoi.
L'humain est vraiment au cœur de votre engagement, quoi, hein, de votre action.
Oui.
Et Camille, justement, on va peut-être dire que deux, trois mots pour ceux et celles de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore le tiers-lieu d'IBOS, dont là où vous travaillez, ce que vous avez fait naître. Comment, en quelques mots, le décrire?
Alors, donc, on réhabilite une ancienne friche industrielle où sont réunies plus d'une vingtaine de structures autour des enjeux de transition. Donc, ça, on va avoir une épicerie, un magasin d'électroménager d'occasion, une brocante, un skatepark, un club de paddle, une école de la transition écologique, des espaces de travail partagés, de la formation.
Une grande diversité dans les activités à faire.
Oui, c'est ça. Et puis aussi, tout au long de l'année, un programme d'animation pour le grand public, pour les professionnels, pour travailler sur les enjeux de transition. Alors ça paraît très vaste dit comme ça, mais ça peut être aussi bien participer à un vide-grenier que des apéros du lien qu'on fait mensuellement, que des événements aussi un petit peu plus spécifiques sur des enjeux de société comme l'intelligence artificielle ou voilà.
Bah Camille, je sens que votre engagement professionnel demande toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi. Alors dites-moi, quand il y a des moments plus difficiles, qu'est-ce qui vous aide à garder le cap?
Déjà, c'est parce que je suis très bien entourée au lien par toute l'équipe du lien, que ce soit l'équipe bénévole ou l'équipe qui travaille au quotidien. Et je crois que ça, c'est quand même le premier moteur de mon engagement au lien, c'est les personnes avec qui on le fait et pour qui on le fait aussi. Toutes les personnes qui viennent au lien, qui sont heureuses de vivre toutes ces expériences au lien. Et puis aussi, le projet en lui-même, moi, je crois très fort que de créer des espaces pour se rencontrer, c'est essentiel.
Merci Camille Rigaud pour votre témoignage, pour votre engagement et pour ce que vous faites vraiment au quotidien pour que la solidarité soit à portée de tous. Alors bonne continuation et on dit au revoir à nos auditeurs, à la semaine prochaine.
Voilà, et Camille Rigaud était au micro de Anne Deslois, que nous retrouverons dès la semaine prochaine. En attendant, dans quelques instants, nous allons retrouver Catherine Albrecht qui nous parlera de Henri Russell. Voilà,
c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. Leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains, et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout. Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom, je suis déçue, vraiment. Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent, ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive. La la la. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre. Ah, da, 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre. Ah, da, 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux.
De couleur vive, c'était la chanteuse Zaz sur Présence.
Présence dans la cité mariale, 96.
Catherine Albrecht.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Henri Russell. Henri Russell, personnalité éminente du pyrénéisme, est né à Toulouse d'un père irlandais et d'une mère gasconne qui lui a fait découvrir dès l'âge de 6 ans les sentiers des Pyrénées. À partir de 22 ans, il voyage à travers le monde. D'abord quelques mois aux Amériques, puis pendant 3 ans en Asie et en Océanie. Sa passion pour la montagne s'affirme et dès son retour à Bagnères-de-Bigorre, il se lance dans une impressionnante série d'ascensions qui ne prendra fin que 40 ans plus tard. Il vit désormais de sa fortune personnelle et va se consacrer exclusivement à ses chères Pyrénées. Infatigable marcheur, il explore toute la chaîne, de l'Osso au Canigou, du Mont Perdu à l'Aneto, et réalise de nombreuses premières. Mais Henri Russel est avant tout l'homme du Vignemale, 3298 mètres, point culminant des Pyrénées françaises, qu'il gravit pour la première fois le 14 septembre 1861. Il est monté plus de 30 fois au sommet, jusqu'à l'âge de 70 ans, effectuant même en 1869, avec les guides Hippolyte et Henri Passé, la première ascension hivernale en Europe. Il fit percer 7 grottes à différents niveaux pour passer des nuits en montagne, explorer plus facilement tout le massif et recevoir l'été de nombreux invités avec qui il partage des repas pantagruéliques. Menu du déjeuner du 31 juillet 1894, soupe, filet de sole, fricando, bœuf, veau, mouton, vin de Bordeaux, café, thé russe, punch, cigare, poire. La première grotte, à 3200 mètres, est achevée durant l'été 1882 et aussitôt baptisée Villa Russel. En août 1884, elle est équipée et aménagée, il y a même un poêle, et 3 messes y sont dites par le père Carrère. Une autre grotte est réservée pour ses guides, une pour les dames et une autre encore pour entreposer des bagages. En 1889, il demande la concession de la partie sommitale du Vignemale à la commission syndicale de la vallée de Barège. Et cette propriété de 200 hectares lui est accordée pour 99 ans pour la somme symbolique de 1 franc par an. Doté d'un réel talent d'écriture, Henri Russel est l'incarnation du pyrénéisme, qu'Henri Beraldi a ainsi défini « ascensionner, écrire et sentir ». Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'incontournable « Souvenir d'un montagnard », sans cesse réédité, somme de récits de ses innombrables courses et descriptions de paysages. Il nous invite ici à passer une nuit glaciale au sommet du Vignemale pour jouir du lever du soleil sur le glacier d'Aussoux et du bruit des cascades qui lui rappelle une complainte de Chopin. 10 ans après, le 26 août 1880, je me rendis coupable de l'excentricité de passer toute une nuit au sommet du Vignemale, entre la terre et la lune. J'avais Brioul et le porteur Aurine, tous deux assez chargés, car, si le temps l'avait permis, je comptais séjourner plusieurs nuits sur la cime. Étant partis très tard de Gavarnie, nous n'arrivâmes au sommet qu'à 7 heures, et c'est au crépuscule que nous dînâmes en 10 minutes. Du reste, nous n'étions pas fâchés d'en finir au plus vite, car il soufflait une petite brise glaciale qui nous paralysait les doigts. Heureusement qu'elle tomba subitement. Ayant ingurgité avec délice un punch beaucoup plus chaud que ceux que l'on me sert dans les cafés, puis un verre de chartreuse, j'ai allumé mon cigare que je fumais solitairement sur mon trône aérien. Car mes deux hommes ayant trop froid me demandèrent de les laisser descendre un peu à l'est où ils passèrent la nuit blottis sous un rocher qui forme une sorte de niche et qui, dans une tempête, pourrait être fort utile. Il est bon à connaître. Mais ils m'aidèrent d'abord à me creuser sur le sommet une espèce de tombeau où à 8 heures je m'enterrais sous les cailloux dans mon grand sac en peau d'agneau. 3 bonsoirs solennels retentirent dans l'espace et puis je restais seul avec les sensations d'un naufragé sur un îlot funèbre de mers arctiques. Il n'y avait cependant rien à craindre. Mon seul ennemi, c'était le froid. Je voyais bien dans le nord-ouest, vers l'Atlantique, un grand rideau du nuage très sombre. Mais il ne montait pas encore, et il était d'ailleurs à une distance probable de 200 kilomètres. Malheureusement, le froid devint intolérable. Malgré le sac, je frissonnais. J'avais des spasmes, comme au contact d'une batterie électrique. À 2 heures du matin, mon thermomètre marquait 3 degrés au-dessous de zéro. Et j'entendais grelotter et tousser mes deux hommes, qui ne fermèrent pas l'œil non plus. En effet, j'étais bleu et gelé. Je me levais 5 ou 6 fois pour me promener, ou plutôt pour courir, sur les 20 mètres carrés qui forment la cime du Grand Vignemale. La lune la couvrait d'or et d'une lumière mystique. Enfin, le jour vint à notre délivrance. À 4h30, une bande dorée qui montait à vue d'œil illumina l'Orient. C'était l'aurore qui s'avançait triomphalement. À 5h, je reçus un rayon de soleil. Quelle joie ! Ce fut une des plus grandes jouissances physiques que j'ai jamais éprouvées de ma vie. Car sur les plaines de Sibérie, dont le souvenir me revint un moment, le soleil avait beau se lever, il ne me consolait jamais de rien. Il faisait encore près de 40 degrés de froid. Ici, malgré les neiges et les glaciers qui m'entouraient, quelle différence ! Comme j'eus chaud tout de suite, bien que le thermomètre à l'ombre marquât encore zéro. Puis la vue seule de la lumière aurait suffi pour allumer un peu mon sang, par le bonheur qu'elle me donnait, tant elle était ardente et pure. Tout ce qu'elle éclairait semblait brûler. Bientôt, le grand glacier dessous, après avoir pris feu aussi, s'empourpra tout à coup sur une longueur de plusieurs kilomètres. Il avait l'air d'un fleuve de sang, couvert de vagues énormes et rouges, et ses crevasses, qui sont tout aussi grandes que celles des Alpes, ressemblaient à des gueules écarlates. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent d'Henri Russel. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Et merci à Catherine Albrecht de nous faire parcourir ainsi nos belles Pyrénées au travers des écrits de certains écrivains. C'est là-dessus que s'achève ce Présence Midi. Je vous rappelle que Sous le soleil va être méditée la prière du chapelet cet après-midi en direct de la grotte de Massabielle à Lourdes pour toutes vos intentions. Très bon week-end et très belle fête des rameaux à vous tous.
Your eyes that look, your heart can't disguise the look of love. They say it's so much more than words could ever say.
let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited.
Présence sur le Causse 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape à Monaco, demain, parmi les sujets qui unissent le Saint-Siège à la principauté, il y a la préoccupation.